Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié? Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter?
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit, ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue
à Cour d'honneur, saison 5, épisode 7.
Et 69e épisode.
Vous n'entendez toujours pas double.
Nous sommes pas là pour vous jouer de mauvais tours, mais plutôt pour vous divertir. Au micro, encore et toujours vos boss lady préférées, Swan.
Et Elise.
J'espère que vous êtes prêts à nous écouter en cette fin d'année.
Car oui, c'est déjà l'avant-dernière émission de 2025.
Le temps passe si vite.
Et même si on a dû troquer le ciel bleu du sud pour le ciel gris de Paris,
on est quand même heureux de retrouver notre cher studio.
Reste avec nous à écouter du bon son, comme toujours.
Et des histoires rocambolesques au lieu de réécrire pour la 10e fois votre liste au Père Noël.
Perso, je sais pas toi, mais j'ai déjà mes listes écrites depuis octobre.
Non mais Ellie, insiste pas, t'auras pas ce Dyson pour tes cheveux de rêve en fait.
Mais je voulais tellement pourtant. Bon, tant pis, après qu'ils ne sentent rien à rien.
Bref, on se pose toujours cette même question.
C'est quoi être étudiant à la Sorbonne?
Et on vous répond toujours sur Radio Sorbonne Université.
Votre magazine préféré d'infos et de culture qui fait tour de la Sorbonne et de ses campus.
C'est un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université.
Et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Pendant une heure, on va...
parler du bon vieux temps.
Pour un garçon, ça serait history. Et pour une fille, ça serait history. Mais une autre prononciation. Un garçon, history. Une fille is cherry.
On va aussi parler de l'hiver.
Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000.
Et des fêtes qui arrivent à grands pas.
Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous.
Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi?
Non, même pas, je m'en fous.
Même pas.
Aussi.
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir.
Bonsoir à Mathilde.
Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite sélection des calendriers de l'Avent. Bonsoir, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite sélection de calendriers de l'Avent.
On a hâte d'écouter tout ça.
On a aussi Elias El Famoso ce soir avec nous.
Bonsoir, bonsoir tout le monde. Sacrée soirée hein, ce soir. Moi, je vous ai préparé un petit micro-trottoir sur comment les étudiants consomment. Est-ce qu'ils consomment bien? Est-ce qu'ils consomment mal? Est-ce que ce sont les pires consommateurs? On verra ça.
On a très hâte.
Et bonsoir à Lavinia aussi.
Bonsoir les filles, je suis ravie de vous revoir dans notre studio habituel et aujourd'hui je vous ai préparé une interview avec notre invitée Oana Besna.
Bonsoir aussi à Romain.
Bonsoir, alors moi aujourd'hui je vais vous parler de comment s'habiller chaudement en hiver.
Bonsoir à Clara aussi.
Et coucou, je suis trop contente de retrouver le studio de la Sorbonne. Et petite précision, il y a vraiment une semaine, heure pour heure, nous étions dans le train de nuit.
Pour oui,
donc contre la nostalgie, moi je vous ai préparé une carte postale qui vient aussi du sud.
Parfait, j'ai déjà envie d'y retourner.
Ah oui, nous aussi. Bon alors on dit bonsoir à moi-même pour une chronique Sorbonne.
Et également à notre invitée Oana Besnea. Bonsoir.
Bonsoir.
Sans oublier le grand Thomas Cromwell, Thomas Ramos. Et non, j'arrive à court de Thomas, c'est encore le fameux et célèbre Thomas Schnell.
Mais vous allez arrêter de me suivre là, ça fait déjà une semaine que je vous ai coltiné, je vous retourne encore ce mercredi. Faut me lâcher ou non, hein, messieurs,
désolé,
faut partir, on va fermer.
Non mais t'inquiète, on n'en peut plus non plus.
Allez, sur ce, que vous soyez en pleine période d'examen,
perdu à Villefranche
ou planqué chez vos parents,
on vous accueille parmi nous pour la prochaine heure.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne.
Et pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment
carte blanche.
On pensait avoir tout vu, mais chaque année, les marques arrivent à nous surprendre encore un peu plus. À croire qu'en 2025, il existe un calendrier pour tout, du plus gourmand au plus improbable. Dans cette jungle marketing des petites cases, Mathilde est allée fouiller les rayons.
Maria Carré, un 1er novembre, les calendriers de l'Avent sont en tête des rayons de supermarché depuis plus d'un mois. Et en faisant un petit tour dans le supermarché en bas de chez moi, j'ai pu voir des calendriers de l'Avent toujours plus originaux les uns que les autres.
Il existe bien sûr les fidèles chocolat, mais on trouve désormais des calendriers saucissons, en plus des calendriers produits de beauté, ou encore des calendriers bière. Ça, c'est pour Thomas. Pour les plus sages, les enseignes de thé ajoutent aussi leur pierre à l'édifice. Et puis, plus étonnant encore, mais j'ai trouvé un calendrier Bosch. Chaque jour, c'est un nouvel outil. Ajouté à la collection, c'est papa qui va être content. Dans un autre registre, on voit également des calendriers plus pimentés pour les coquins. Le but étant aussi de se faire plaisir. Clin d'œil, clin d'œil. À mon avis, on verra même passer dans quelques années le calendrier Durex. Le 1er décembre, on a la capote Classic Jean. Et le 24, le Pleasure Ultra ou le Feeling Extra. Ou alors, chaque jour, une capote avec un goût différent, car c'est ça, le plaisir partagé. Bref, ces calendriers de l'avance sont une vraie folie marketing dont les réseaux sociaux se sont emparés. On voit passer des milliers de vidéos d'unboxing de calendriers et le hashtag calendrier de l'avant dépasse chaque année le milliard de vues. Avec tout ça, vous passerez sûrement par la case banqueroute juste après la case 24, donc faites attention à votre porte-monnaie. Et pour la petite anecdote, pour briller au prochain repas de famille ou à la prochaine raclette, le calendrier de l'avant est né en Allemagne en 1920. Une idée pour faire patienter les enfants avant Noël. Aujourd'hui, les adultes sont plus nombreux à acheter des calendriers de l'avant que les enfants, certainement pour tenter de retrouver cette sensation perdue, la magie simple de se réjouir pour presque rien. Parce que le plus grand malheur des adultes, leur plus grosse blessure d'enfance, bah c'est celle de l'avoir quitté. Alors n'oubliez pas, pas de bras, pas de chocolat, pas de chocolat, pas de Thomas, pas de Thomas, pas de cours d'honneur, pas de cours d'honneur, pas de bonne humeur. Conclusion, mangez du chocolat et écoutez cours d'honneur.
Merci beaucoup Mathilde pour cet édito, ça nous donne très envie de manger du chocolat maintenant. Merci, super. Alors sur ce, il est 18h06 sur Radio Campus et 20h31 sur Radio Sorbonne. Nous avons du retard sur notre direct.
Ça y est, Swan, je reconnais enfin les murs de notre chère Sorbonne depuis qu'on est revenu de Villefranche.
Ah bah enfin, je commence à me poser des questions sur tes capacités intellectuelles.
Dois-je te rappeler que je suis myope en fait ?
Ouais, bon, j'espère qu'il y a que ça qui va pas parce que sinon tu vas avoir besoin de réfléchir un peu avec ce qui suit. Tu sais ce qu'on dit ?
N'oubliez pas que dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Woody Allen l'affirmait en 1975 et 50 ans plus tard, les étudiants sont unanimes. L'argent, c'est mieux que la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières. On profite de la moindre promotion pour consommer à tout va, que ce soit fast-food, fast-fashion, tout va vite, mais notre conscience en fait-elle autant ? Et là, c'est parti, vous demandez comment qualifieriez-vous votre manière de consommer ?
Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, demain, il y a le fait qu'on soit jeune et qu'on ne se rend pas trop compte de la responsabilité qu'on a. Et du coup, on a tendance à acheter un peu par impulsion tout ce dont on a envie, etc., ce qui est accessible. Et le deuxième problème, c'est qu'on est précaire. Donc, on a tendance à se tourner, malgré nous et parfois même consciemment, vers des modes d'achat qui sont moins chers.
Je dirais pas que l'étudiant en général et particulièrement la Sorbonne consomme particulièrement mal. Je dirais qu'il y a une éthique aussi de l'étudiant de la Sorbonne qui, particulièrement en lettres, qui se sape uniquement dans des fripes.
De toute manière, faut pas se voiler la face. C'est pas les pires consommateurs, c'est juste que le fait d'avoir peu d'argent, ça peut nous amener à consommer moins éthique. Et je pense surtout aux lycéens plus qu'aux étudiants. D'ailleurs, on est moins sensibilisés sur cette cause-là et on a tendance à acheter fast fashion et pas que Zara, H&M, mais aussi Shein, Temu. C'est plus rapide, c'est plus simple, c'est moins cher. Voilà.
Les étudiants sont touchés par des problèmes de précarité qui sont réels. Après, ça ne concerne pas la majorité des étudiants non plus. Après, je pense que les étudiants font quand même partie d'une certaine classe d'âge qui sont conscients des problématiques actuelles de consommation. Et j'ai pas l'impression autour de moi d'avoir des gens qui consomment mal. Dans le bien consommer, il y a deux choses à avoir. C'est soit bien consommer du point de vue éthique, soit bien consommer par rapport à ce qui est bon pour soi.
Si tu prends l'alimentation, par exemple en fast-food, oui, c'est sûr que les étudiants sont facilement tentés d'y aller, etc. Mais à condition qu'ils aient les moyens d'y aller, parce que les fast-foods, c'est quand même extrêmement cher. Après, en termes de consommation responsable, pas forcément, parce qu'on a tendance à aller vite vers les produits transformés, etc. Ce qui est assez normal, faute de temps.
Pour les produits transformés, c'est sûr que c'est le moins cher. Et donc, c'est forcément ce à quoi on va penser, parce qu'on ne peut pas se permettre non plus d'acheter bio, par exemple. Je ne pourrais pas dire qu'on fait une mauvaise consommation de la culture, parce qu'on ne peut jamais mal consommer la culture, à mon sens. J'ai récemment acheté un billet pour le musée Jacquemart-André. Tarif réduit, 15 euros, ça fait mal. La culture, elle est de façon générale accessible, mais peut-être pour des choses un peu plus spécifiques, c'est dur.
Alors maintenant, la question est, est-ce que vous allez être honnête durant ce débat ? Quand on va parler de surconsommation, quand on va parler de mauvaise consommation, de non-éthique. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ?
Commençons par les habits. Je sais pas, moi personnellement, j'ai fait une commande Chine dans ma vie. Voilà, je l'avoue. Pendant le confinement, et je n'en referai pas. Parce que j'ai eu des trucs. J'ai eu un truc qui m'a duré longtemps, par contre. Mais j'ai eu un truc, c'était pas du tout le modèle que c'était indiqué. Et puis même après, avec tous les scandales qu'il y a eu, je veux plus. Je m'habille principalement en fripe ou alors je pique des vêtements à ma mère. Ou à mes sœurs, mais c'est vrai que les fripes, il y a fripe et vintage shop. Déjà, c'est pas la même chose. Je trouve que les prix en vintage shop sont parfois vraiment abusément chers pour du H&M et du Shein qu'on retrouve, et vintage aussi. Mais je m'étais fait une petite réflexion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, il y a un peu cet engouement pour la seconde main. Qui fait que, bah, comme je vends mes articles sur Vinted, bah, en fait, c'est bon, je leur ai donné une seconde vie, j'ai fait de la place, donc je peux me permettre d'acheter de nouvelles fringues, etc. Et en fait, le cycle continue. Et moi, je suis complètement. Enfin, je suis choquée que Chine soit au Galerie Lafayette de Paris. Au BHV. Voilà, et qu'elle aille normalement dans d'autres villes de France. Et qu'on on pense à la supprimer juste parce que ça mettrait en faillite le magasin et pas parce que pour des raisons humanitaires.
Après, quand on regarde les vidéos qui filment la file d'attente du magasin Chine qui vient d'ouvrir, on voit toutes sortes d'âges. On voit en fait pas tellement de jeunes. Moi, j'ai vu des personnes dans la cinquantaine, au-delà, en dessous, bref, des adultes qui ont eu le temps de se former et de se responsabiliser là-dessus et qui ne l'ont pas fait. Et puis en même temps, enfin, je sais pas vous, mais je trouve qu'on parle beaucoup de comment responsabiliser les jeunes, les personnes les plus précaires pour mieux consommer, alors qu'en fait c'est souvent les acteurs qui contribuent le moins globalement aux problèmes de mondialisation, de surconsommation, etc. Je sais pas si c'est vraiment les bons acteurs vers lesquels se tourner.
Pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve que les étudiants ne sont pas les pires consommateurs, c'est les consommateurs qui sont en apprentissage. Donc je trouve déjà que c'est un peu dommage d'essayer de reporter la faute sur les étudiants, alors qu'en vérité, ils sont encore en train d'apprendre comment fonctionne la vie. Et alors que des personnes, comme tu as dit, qui ont eu le temps de se former et qui continuent à acheter du Shein ou du Temu, je trouve que c'est plus problématique que des étudiants qui sont encore en train d'apprendre la vie. Après, quoi.
Quand tu as 20-25 ans, je considère que t'en es pas à te former sur la vie. Tu peux avoir un avis sur les choses, te dire que tu préfères ça.
Attendez, ça veut dire quoi se former là? Je comprends pas. Mais moi, je me forme au travail pour apprendre des compétences. On se forme pas à la vie. Hein. Ça veut rien dire.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, un étudiant est forcément plus précaire et donc il apprend sur le tas. Il commence à essayer de comprendre comment fonctionne en fait par exemple la valeur de l'argent. On la comprend beaucoup plus quand on commence à être étudiant. Moi personnellement, je n'achète pas de Chine ou de Temu, mais je comprends un peu plus un étudiant qui a besoin encore de prendre ses repères.
Et les étudiants sont pas forcément plus précaires. Il y a des étudiants qui sont quand même bien accompagnés financièrement. Tout dépend de la classe sociale. Et je pense qu'on cible les jeunes publics aussi dans le sens où, comme ça va être les adultes de demain, du coup, les enfants, tôt, c'est vrai que c'est plutôt pas mal de leur apprendre que Noël, les dizaines de cadeaux qu'il y a et qui venaient de telle et telle marque, ce serait bien de remplacer cette tradition par quelque chose plus... C'est co-responsable.
Mais après, hormis justement cette thématique de la mode et de la fast fashion, je pense qu'on est assez formé autour de notre âge pour savoir que maintenant, il faut vraiment arrêter de consommer de la fast fashion. Mais c'est plutôt au niveau de la nourriture aussi. Les étudiants, on a tendance à acheter ce qu'il y a de moins cher et où on sent forcément s'assurer que les personnes derrière sont payées correctement, que ce soit pas juste le supermarché qui se prenne le plus grand pourcentage. Alors que par exemple, si on achète en bio ou si on achète... pas forcément des marques, parce que les marques, c'est le même problème, mais à des marques plus éco-responsables niveau nourriture, qui sont plus chères, mais au moins, on est sûr que tout le monde est respecté derrière. Et ça, c'est là-dessus, je pense, que les étudiants fautent le plus, mais pas forcément en le voulant.
Après, ça fait plusieurs fois que j'entends se former. Moi, j'ai pas l'impression de me former à la vie. Parce que se former, ça veut dire que t'apprends des choses de quelqu'un d'autre que tu vas répéter après. Alors que là, c'est pas se former, c'est se faire son propre avis, se dire que moi... par rapport à mes convictions, je préfère consommer tel ou tel produit, marque, etc. Et je pense que c'est aussi avec les expériences de vie où... où il y a pas mal de gens, c'était il y a quelques années, qui regardaient les vidéos d'abattoirs là, qui sont tous devenus végétariens. Je pense que c'est aussi des prises de conscience à avoir et chacun en fait ce qu'il veut, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de se former vraiment.
C'est pas se former, mais c'est s'informer finalement, tout simplement.
Ah, là, oui, là je suis d'accord. Merci Lavinia.
Au fil des rencontres aussi, comme ça, avec des débats, en parler.
Il y en a qui font de la philo ici. Hein.
Voir qu'il y a d'autres gens qui peuvent consommer d'une autre manière. C'est ça aussi, c'est confronter la diversité des manières de faire et se rendre compte que, ah bah tiens, je pourrais peut-être en effet faire autrement parce que bah, telle ou telle personne a toujours été habituée à consommer comme ça. Et bah, ce que tu disais sur l'alimentation, moi je me reconnais plus là-dedans, dans le sens où pour la mode, j'ai pas de mal à être éco-responsable, entre guillemets. Et par exemple, pour la nourriture, c'est vrai qu'au niveau sous, le bio, qui en plus parfois n'est pas forcément, enfin bon bref, ça c'est un autre débat, mais voilà, c'est là où ça, où c'est vrai que je pêche le plus, c'est là-dessus. Et il y a bio et il y a local aussi, c'est important.
Exactement. Après, je trouve que tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, enfin dans le sens où, ok, consommer c'est bien, mais enfin consommer mieux, bah, c'est mieux justement. Et je pense que genre tout n'est pas en mode arrêter d'un coup ou alors surconsommer d'un coup. Je pense que c'est toute une question de nuance. Et je trouve ça un peu facile aussi de critiquer les gens, même si en tant qu'humain, on a des efforts à faire, que ce soit sur la fast fashion, sur la manière de consommer les aliments, etc. Mais je pense aussi qu'il faut surtout blâmer le système dans lequel on vit, parce que c'est quand même ce système-là qui nous pousse à acheter, à consommer, à surconsommer. On a tout le temps des pubs. Non, mais c'est vrai, enfin, quand on est sur Instagram, à chaque story, on slide, il y a une pub pour acheter des vêtements. Il y a tout le temps, enfin, on nous pose tout le temps à la surconsommation. Donc, je pense que, au lieu de blâmer les gens, je pense qu'il faudrait plutôt remettre en question le système, même si, évidemment, on a des...
Alors, il faut le remettre en question, mais je trouve ça très facile de toujours blâmer le système et la société de consommation dans laquelle on le vit. Parce que, par exemple, là, autour de cette table, on est une grande majorité à avoir des iPhones, alors qu'on connaît la grosse pollution que font la création de tous ces téléphones-là. Il y en a des milliers par an qui sortent. Ils ont toujours une nouvelle marque, etc.
Mais certes,
on connaît
mais
les enjeux derrière.
Fois, genre, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Par exemple, tu peux avoir un iPhone, mais... Déjà, s'il est reconditionné, c'est déjà un peu mieux que si tu l'achètes.
Ça, c'est bonne conscience, je pense. Non, mais c'est sûr que c'est mieux. C'est sûr que c'est mieux, mais ça reste.
C'est mieux consommer la technologie parce qu'aujourd'hui, t'as un téléphone. Enfin, t'as pas de téléphone. T'es un peu à l'écart de la société.
On peut avoir un autre téléphone qu'iPhone. C'est juste qu'on choisit d'avoir iPhone parce que c'est plus pratique. Et donc, on choisit le plus pratique.
Je parle de téléphone parce que ce soit iPhone ou Samsung, c'est la même. Ça a le même impact écologique.
Mais pas que Samsung, j'attends.
Je suis d'accord qu'il ne faut pas faire...
T'as compris ce que je voulais dire,
peu importe la marque. Il ne faut pas faire que blâmer les politiques publiques, effectivement. Je pense qu'il faut être conscient et savoir pourquoi on agit comme ça et savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement. Mais effectivement, il ne faut pas être radical non plus, dans le sens, voilà, tout changer.
Clara, tu avais parlé avant de Vinted et j'avais pensé au Too Good To Go qu'on avait pris dans la gare à Nice. Est-ce que vous pensez que c'est un peu la version Vinted de la consommation ou
non,
pas du tout?
Non, parce que ça récupère quand même la nourriture qui s'apprête à être jetée, contrairement à Vinted où c'est vraiment, on a encore le même cycle de surconsommation où j'achète, je revends et encore la plupart ne revendent pas.
Oui, Vinted ça continue d'alimenter Too Good To Go, ça permet de ne pas jeter.
Too Good To Go, tu vas le manger. Est-ce que ça n'alimente pas justement la surconsommation? C'est comme avec les fripes ou Vinted où tu te dis, ah bah tiens, ça coûte pas cher, puis en plus c'est bien pour la planète donc je peux en prendre trois fois plus.
Non, parce qu'ils sont perdants, parce que les vendeurs sont perdants. Moi je travaille dans un resto, ils font des paniers Too Good To Go et en vrai, c'est bien quand on peut en faire, mais ce serait mieux de pas avoir à en faire.
Oui, oui, non, mais je dis, on parle là du côté de la consommation. Est-ce que le mieux serait pas de ralentir, de moins consommer? Et pas de consommer autrement, etc.
Même quand on écoute des émissions qui parlent de quand on fait des vêtements, quand c'est marqué 100% coton, etc., c'est pas plus éco-responsable finalement. En fait, ce qui est éco-responsable, c'est de moins consommer. Et donc, si tu prends sur Vinted, c'est bien, mais si t'en prends toutes les semaines, t'en prends deux paniers par semaine parce que ça coûte que 5 euros au lieu de 15 chaque vêtement, c'est mal, tu vois. Il vaut mieux juste vraiment moins consommer. C'est ça la clé de tout.
On blâme qu'importe comment on consomme. Mais on a les clés aussi. Enfin, par exemple, le truc des doggy bags. Moi, je sais qu'à un moment je voulais le rendre obligatoire. Bon, c'est un peu compliqué, mais juste en fait, en travaillant dans la restauration, quand tu vois toute la quantité de nourriture qui est jetée, t'as juste envie de te dire, bah s'il te plaît, ramène ce que t'as acheté chez toi ou finis-le, quoi.
En espérant que d'ici là on consomme tous mieux. Mais bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Il est jeune, il est mortel et il a la chance de sortir avec Miss Murder, dessus sur cours d'honneur, ambiance 2000 de Jeanne Mortis.
Yeah. imité mais jamais égalé. Toujours imité mais jamais égalé. Quand je pense à l'aéroboss, ça me fait mal. Mon gars, A.B. Stephen, ça me fait mal. 3500 volts. Je fais ça avant des cadeaux. Avant des cadeaux. Putain, aux gens, ils ont drap. S.A.S.I. c'est les gangsta. Donc elle veut pas lâcher ça. Ma petite fleur, elle a l'allure d'une gangsta. Molo coup DJ. Il faut batailler. Chaque jour, on gravit les balais. Faut que je remplisse le balai des congrès. R.I.P. DJ Joe. R.I.P. Jonathan. Eux, ils vont me juger. Oh, demain, c'est les mêmes qui m'acclament. J'ai un flow de malade. Reste droit, reste sale. Reste droit, reste sale. Reste droit, reste sale. Pas une couleur comme les Teletubbies. On bouge comme des Teletubbies. Ramène ton bacha et tes copines. Je vais en rechaz. En fait t'as raison. J'suis peut-être pas en bon. J'ai peut-être trop fait le bravo. J'sais pas ce qui est cassé. Mais tout le temps j'veux tout casser. Petite dédicace. Sur ma cassette t'es passé. A niqué les gens, poche en chain. J'ai niqué les gens, là j'enchaîne. J'ai niqué les gens, là j'enchaîne. Petit vélo, reprends le moral. Tous les soirs on se peine, c'est l'eau pour le moral. Toujours imité mais jamais égalé. Toujours imité mais jamais égalé. Quand je pense à l'aéroboss, ça me fait mal. Mon gars, A.B. Stephen, ça me fait mal. J'ai mis ça sans vol. Avant des cadeaux, avant des cadeaux. Putain, aux gens, ils ont mon drap. S.A.S.I. c'est les gangsta. Donc, elle veut pas lâcher ça. La petite fleur, elle a l'allure d'une gangsta. Molo coup DJ, il faut batailler.
Et il est 18h12, je ne sais pas, 18h-25, on est perdu, on est beaucoup trop en retard sur Radio Campus et il est 20h47 et oui sur Radio Sorbonne, vous êtes sur Cours d'honneur, vous venez d'écouter Ambiance de Mie de John Morty. On fait maintenant un bond dans le temps, dans le présent, car ce soir nous avons le plaisir d'accueillir Oana Besnea, directrice des relations alumni pour l'interview.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
C'est quoi être étudiant à la Sorbonne ? Cours d'honneur y répond à chaque émission, mais aujourd'hui j'aimerais qu'on décline la question au passé. C'est quoi avoir été étudiant à la Sorbonne ? Parce que oui, la vie universitaire ne s'arrête pas à la remise des diplômes. Elle se prolonge aussi dans une communauté active comptant aujourd'hui plus de 400 000 alumni. Pour mieux comprendre ce réseau et ce qu'il apporte, nous accueillons ce soir dans notre studio Oana Besnea, directrice des relations alumni de Sorbonne Université depuis bientôt 2 ans. Bonsoir.
Bonsoir et merci pour votre invitation.
C'est avec grand plaisir. En tant que jeune adulte, on entend souvent dire qu'il faut se construire un réseau le plus tôt possible. Sauf que dans les faits, beaucoup d'étudiants n'ont jamais eu de formation pour ça et terminent leurs études sans vraiment oser se lancer. Est-ce que c'est trop tard pour commencer à réseauter une fois le diplôme en poche ?
Alors, c'est pas trop tard, mais j'encourage toujours les étudiants à commencer à le faire sans attendre qu'ils soient diplômés. C'est un peu la parole qu'on prêche à chaque fois qu'on intervient auprès des étudiants de Sorbonne Université. J'ai entendu dire tout à l'heure par les intervenants précédents que la communauté, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et j'adhère pleinement à cette philosophie. Et c'est aussi ce qu'on promeut au sein de la direction des relations alumni.
Et j'ai vu aussi que dans... Justement, le réseau alumni que nous avons à Sorbonne, il existe beaucoup de clubs. Il y a des clubs désignés comme thématiques et d'autres clubs désignés comme géographiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, je vois que vous êtes bien renseignés. Nous avons effectivement des clubs thématiques qui sont principalement basés à Paris. L'autre moitié de ces 25 clubs sont des clubs géographiques. qui sont présents un peu partout dans le monde et qui reflètent la dynamique assez importante de cette communauté, son dynamisme aussi et la présence assez importante de nos diplômés dans des villes stratégiques, voire des villes très importantes, que ce soit au Canada, à Montréal ou en passant par les États-Unis, à New York, San Francisco, Boston, ou même en Asie, à Tokyo, et puis en Europe, avec une présence importante à Bruxelles, Londres et Genève.
Et comment ça se passe exactement? Est-ce qu'à un moment donné, un ancien étudiant se dit « je vais fonder un club ici, là où je me trouve en ce moment » ou est-ce que c'est une initiative commune par un groupe plus grand?
Alors, c'est une très bonne question, Lavinia. L'initiative peut-être à double sens, je dirais. C'est soit un alumnus ou une alumna qui nous contacte en disant « Coucou, j'ai identifié un petit noyau d'alumni dans ma ville ou dans la région où j'habite et j'aimerais constituer un club. » Donc à ce moment-là, nous, on évalue la faisabilité parce qu'il faut quand même que cette initiative réponde à quelques critères. Soit c'est carrément une opportunité identifiée par l'université parce que nous avons des partenariats stratégiques, par exemple, avec la ville en question. Et dans ce cas-là, c'est la présidence qui impulse clairement la création d'un club.
Vous avez récemment partagé un message autour du Giving Tuesday. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une initiative mondiale le 2 décembre qui invite à la générosité. Et c'est autour de la précarité étudiante, justement, on avait parlé avant. Et justement, c'était un appel à la solidarité venant des alumni. Est-ce que ce type d'entraide de la part des alumni est fréquent ?
Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Je dirais que oui, mais pas assez. Donc, ça prouve qu'on a encore du travail à la direction des relations alumni. Et je peux dire qu'à ce titre, la Fondation Sorbonne Université, qui est d'ailleurs la plus importante en France pour tout ce qui est projet universitaire et donc qui recueille aussi des dons pour des étudiants, pour des bourses. Elle œuvre avec nous, on travaille main dans la main pour justement amener de plus en plus d'alumni à contribuer à des bourses de solidarité. On constate qu'il y a une partie des alumni qui sont très sensibles à ces messages et qui souhaitent donner. Il y en a d'autres qui se posent des questions. Est-ce que si je donne 10 euros par exemple, est-ce que ça ne crée pas plus de travail derrière de traiter ce don que de vraiment contribuer, d'avoir un impact sur la précarité des étudiants. Donc nous, on essaye aussi de donner d'apporter plus de clarté sur ces questions et évidemment de faire avancer cette cause qui nous est très chère, donc la solidarité intergénérationnelle. Disons que cette dimension traverse la plupart de nos activités.
Et c'est un réseau qui ne cesse de grandir. Donc l'entraide devient de plus en plus évidente lorsqu'on a de plus en plus d'alumni chaque année. Pour l'instant, on est à 400 000, comme on l'avait dit, mais ça va continuer à grandir. Comment est-ce que vous gérez une communauté qui continue de croître en permanence ?
Alors, il faut savoir que cette communauté, ce n'est pas une base de données. Ce sont vraiment des femmes et des hommes qui s'engagent, pour une partie en tout cas, à nos côtés. J'aimerais rappeler à ce titre que le réseau Alumni est très récent. C'est un réseau très jeune qui a été créé il y a 5 ans. Et justement, je suis ravie d'être ce soir avec vous dans ce studio charmant et foisonnant pour donner plus de visibilité au réseau. C'est un réseau jeune mais très prometteur, assez unique en France d'ailleurs, parce qu'on n'est pas sur une logique d'offre de service. Ce qu'on promeut, c'est l'engagement, justement. Et donc, ces hommes et ces femmes s'engagent à nos côtés pour faire avancer les missions de l'université. Donc ça peut être la solidarité, comme vous l'avez rappelé, mais aussi des collaborations en formation, recherche, innovation, et dernièrement, beaucoup d'ailleurs, la diffusion des savoirs dans la société. Donc on gère cette communauté de la meilleure façon qu'on puisse. Moi, j'ai une équipe qui, je sais qu'ils m'écoutent ce soir, donc je les salue, Eve, Marine, Sébastien et Zoé, qui sont la cheville ouvrière de la direction.
Merci à eux alors de participer à ce projet.
Tout à fait. Et donc, on travaille avec toutes les composantes de Sorbonne Université. C'est en cela que notre travail est formidable et qu'on s'ennuie jamais. On est amené à travailler avec des responsables de master, des directions, le collège doctoral, des vice-présidents. Ça se passe à tous les niveaux. Et ce qu'on fait avant tout, c'est créer du lien entre les diplômés, donc les alumni, et les structures interne pour identifier des opportunités de collaboration. Donc le travail avec la Fondation Sorbonne Université en fait partie, mais on engage aussi ces femmes et ces hommes, donc ces diplômés, dans des actions de mentorat. Ils font aussi des témoignages pour participer à l'orientation professionnelle des étudiants. Il y a d'autres collaborations en recherche et innovation pour des alumni qui sont entrepreneurs, par exemple. Donc, ce sont des formes très variées d'engagement. Et sur les 500 000 environ qui constituent le réseau alumni de Sorbonne Université actuellement, nous avons réussi en 5 ans, et ce n'est pas rien, à engager autour de 14 000 dans le réseau.
Donc si je comprends bien, ce chiffre qu'on a cité, ce sont les alumni qui sont activement intégrés dans les relations avec la Sorbonne. Donc ce n'est pas juste tous les anciens étudiants regroupés.
Malheureusement, c'est tout le défi en fait d'arriver à engager de plus en plus. Donc on a réussi à engager environ 14 000 et à ce titre, je tiens aussi à saluer le travail de mon prédécesseur Arnaud Magnan, qui a lancé ce réseau avant mon arrivée. Et justement, on sait d'ailleurs que c'est un travail de longue haleine, dont les résultats arrivent sur le temps long, mais qui sont très satisfaisants. Et en France, il faut quand même dire qu'on est assez précurseur à Sorbonne Université. Les universités publiques se sont lancées dans des dynamiques ou des politiques de relations alumni très, très récemment. Et on est souvent sollicité d'ailleurs par nos homologues dans d'autres universités pour les inspirer et échanger de bonnes pratiques.
Avant Sorbonne Université, vous avez déjà travaillé avec des réseaux alumni, notamment à la Cité universitaire internationale de Paris. Qu'est-ce qui vous a paru différent lorsque vous avez repris ce rôle au sein de la Sorbonne ?
Alors, il faut dire que lorsque j'ai démarré ce projet alumni à la Cité internationale, qui est un lieu qui m'est très cher, je l'ai fait plutôt par intuition. Je suis moi-même alumna de ce campus. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, surtout venant de l'étranger, je suis née en Roumanie, je pense que ça s'entend, j'ai compris l'importance du lien et du réseau et des rencontres. C'est-à-dire que parfois, et assez souvent d'ailleurs, une bonne rencontre au bon moment peut clairement nous propulser sur une trajectoire qui peut être inattendue, mais très satisfaisante. C'était le cas en tout cas dans mon parcours professionnel. Et à partir de ce moment-là, puisque j'étais moi-même d'ailleurs boursière d'une aide, j'étais pas dans la précarité, mais j'étais quand même une étudiante étrangère à Paris. Et des alumni de la Cité universitaire m'avaient apporté un soutien financier. Et ça m'a beaucoup touchée, beaucoup aidée d'ailleurs, pour finir mes études. Et j'ai voulu quelque part rendre. Et au moment où la gouvernance du campus m'a fait confiance pour lancer le réseau alumni, c'était d'ailleurs à peu près en même temps que mon prédécesseur à Sorbonne Université, j'ai compris toute l'importance de cette diversité des profils. Souvent, quand on parle d'alumni, on ne se rend pas compte, en fait, de la fierté d'appartenance qu'ils ont et de l'envie qu'ils ont de rendre. Ils attendent juste la bonne opportunité. Et c'est en cela qu'un service dédié, comme c'est le cas de notre direction à Sorbonne Université, est très important parce qu'on ouvre la voie et on montre les exemples des engagements possibles. Donc c'est ça qui m'a amenée à travailler dans les relations alumni.
Récemment, une alumna de la Sorbonne, Aurélie Jean, a fait appel à vous pour réunir des participations à un sondage autour de la radiologie et de l'usage de l'IA. À partir de cet exemple, j'aimerais vous demander en quoi le réseau alumni peut-il servir aux étudiants qui s'engagent dans une voie de recherche et pas forcément dans le monde du travail.
Alors, il n'y a rien qui vous échappe. Effectivement, Aurélie Jean, qui est l'une de nos alumnas illustre, a lancé cet appel sur LinkedIn. Je trouve que c'est un bon exemple. C'est une alumna qui a eu un parcours brillant. Quand on parle d'engagement, je parlais tout à l'heure de solidarité envers les étudiants et surtout engagement dans les missions de l'université. Mais parfois, on a aussi des choses à apporter nous-mêmes aux alumni. Et donc en cela, on essaye aussi de mettre le réseau de l'université au profit de ces étudiants. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai relayé moi-même et on a relayé au niveau de ma direction l'appel d'Aurélie. Pour répondre plus précisément à votre question sur la recherche, il y a une part des étudiants qui souhaitent se lancer ou en tout cas continuer leurs études avec un doctorat. Et les alumni jouent un rôle important à ce titre parce que nous avons beaucoup de docteurs, on a d'ailleurs un club des docteurs alumni, qui interviennent en tant que mentors auprès des doctorants pour justement les aider à mieux appréhender cette étape de leur future carrière de chercheur. C'est un programme qui est mené au sein de Sorbonne Université par le collège doctoral avec lequel on travaille beaucoup. Et donc, d'une part, il s'agit d'accompagner en tant que mentor. Donc, c'est en cela que les alumni jouent un rôle important. Et puis, dans la recherche de manière générale, je pourrais aussi donner un exemple. Un alumnus qui est d'ailleurs un des animateurs du club des docteurs et qui s'appelle Rafik, qui est très investi et qui vient d'être nommé par le ministère de l'Enseignement supérieur comme ambassadeur des docteurs en France pour justement montrer en quoi les compétences qui sont acquises par des doctorants et des futurs docteurs dans une université sont essentielles dans la société aujourd'hui et même au sein des entreprises. Ce qu'il fait en gros, c'est qu'il promeut toute la plus-value qu'ont des chercheurs, des docteurs pour l'activité d'une entreprise.
On approche de la fin de cette interview. C'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous. On a une dernière question, c'est la question phare de notre émission radio. Que représente la Sorbonne pour vous ?
Alors, je n'étais pas prête pour cette question, mais c'est bien d'être spontanée. Ce que je peux dire, c'est que depuis que j'ai pris mes fonctions il y a un an et demi, bientôt 2 ans, ça passe très vite, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai été impressionnée au point d'être intimidée parfois par le niveau des professeurs et des chercheurs que je rencontre presque quotidiennement parce qu'on les implique beaucoup dans nos événements alumni. Ils interviennent auprès de nos clubs alumni, ils nous accompagnent quand on part à l'étranger. Et donc, ce que ça représente pour moi, c'est surtout... beaucoup de fierté aussi de travailler pour cette institution. Je viens d'un petit village de Roumanie et je n'avais jamais songé d'en arriver là. Et même si c'est intimidant, je me rends compte qu'il faut faire preuve d'humilité et de se dire qu'on ne pourra jamais avoir les mêmes connaissances que tous les interlocuteurs qu'on rencontre à Sorbonne Université, mais qu'on peut se contenter d'apprendre chaque jour un peu de ce qu'ils ont à nous transmettre. Et en cela, cet environnement dans lequel vous étudiez est un des milieux les plus propices pour que vous puissiez vous épanouir et ensuite repartir avec les outils nécessaires pour agir dans la société.
Merci beaucoup Anna Vesnea d'être venue nous éclairer sur le réseau alumni de Sorbonne Université. Vous et votre équipe restez disponibles pour tous les étudiants qui souhaitent bénéficier de ce réseau, que ce soit pour une question d'orientation, de stage ou de première insertion professionnelle. Et n'oubliez pas non plus de vous aventurer du côté du podcast Les Estivales de la rencontre des alumni des années précédentes, remontant en 2023, pour vous plonger dans les éditions précédentes et vous préparer à suivre celles de 2026. À bientôt!
À bientôt.
Merci beaucoup à toutes les deux pour cette interview. La chanson qui suit se décrit en elle-même et son artiste puisqu'elle est cool et puissante. C'est Poderosa de Yasmine Pigeon sur Cour d'honneur. Nunca medrosa, ela tem poder.
Ela é tão inteligente, ela sabe, ela sente. Não se preocupe por enquanto, ela tem paciência. A cabeça bem esperta, se chega perto ela arrasa. E você vai se arrepender. Então sai pra lá que não adianta, não aguenta. Tua postura é tão machista, patética. Não adianta, não aguenta. Não vê a hora de te ver partir. Poderosa, muito famosa, nunca medrosa. Ela tem poder. Perigosa, como uma rosa. Se colhe ela, você vai sofrer. Eu falei, mas você negou. O que não pode ver te queimou. Eu avisei, mas você riu de mim. Agora é tarde, chegou o fim. E você quis me rabaixar, mas isso só me fez mais gravar. A brincadeira agora terminou. A voz é forte, é meu coração. Famosa, nunca medrosa. Eu tenho poder.
Il est 18h30 sur 40, pardon, sur Radio Campus Paris et 20h40 sur Radio Sorbonne. Vous êtes sur Cour d'honneur, vous venez d'écouter Poderosa de Yasmine Pigeon. Est-ce que vous aussi, par contre, vous vous dites, certes, je me sens puissante comme notre chère Yasmine, mais je vous avoue que ce froid d'hiver commence à m'affaiblir de jour en jour. On a la solution pour vous de suite dans la chronique des brouilles.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez, la vedette, top table!
Romain nous amène faire du shopping, youpi. Et merci parce qu'on va pas se mentir, on n'en peut plus de se les geler dès qu'on met le pied dehors, hashtag ramenez-nous à Villefranche. Mais il y a autre chose d'autant plus rude, c'est les prix. Alors pitié Romain, dis-moi que tu as des bons plans pour qu'on puisse rester aussi cool que hot dans tous les sens du terme.
Oui, j'en ai. Alors aujourd'hui dans la chronique débrouille, on va parler d'un fléau qui touche tous les étudiants, s'habiller chaudement en hiver sans forcément vendre son rein. Parce que oui, dehors c'est chaud, comme disent les jeunes, mais surtout il fait froid, très froid. Un vrai retour à l'âge de glace durant lequel le consommateur n'est pas sapé comme jamais, mais plutôt habillé en Shein et en Temu. Donc, comment on survit, nous, petit homo sapiens moderne, sans peau de léopard en guise de sous-vêtements ? Il y a un spot sous-côté dans l'écosystème étudiant, le Célio. Oui, oui, le magasin préféré des darons. Pourquoi hâtez-vous ? Parce qu'on y trouve des lots de shorts à des prix en promotion. Vous pourrez mettre ces derniers sous le jean. Ça n'a pas l'air très classe à première vue, mais les shorts tiennent chaud et n'handicaperont pas votre flow. Et si jamais vous manquez d'inspiration, regardez dans les placards parentaux. Volez les vêtements de vos darons, une idée aussi vintage qu'astucieuse. Veste en cuir, béret, écharpe, en plus de tenir chaud, vous ressemblerez à un étudiant d'Assas qui croit avoir 45 ans. Mais attention, Larsin, si vous vous faites repérer par vos géniteurs, comme dirait Carmen, prends garde à toi. La troisième astuce, les friperies. Le guérisol situé dans le 14e arrondissement de Paris-Alésia est une fripe magique. On pourrait croire que le patron cherche à faire faillite. Des bacs à 1€, des gants, des bonnets, des manches en fourrure, tout ça à 1€, on y croit. C'est des fashionistas, des SDF et parfois même les deux. Pour les plus connectés, direction les applications Vinted et Le Bon Coin. Vous n'y trouverez jamais de vraies paires d'Air Jordan 4, il ne faut pas rêver. Mais des coupes-vents style Gore-Tex et des Salomon à prix doux, ça oui. De quoi grimper la rue Saint-Jacques comme si c'était le documentaire Kaizen d'Inoxtag. Et puis il existe une technique, disons, institutionnelle. Avec une carte étudiante et un peu d'audace, vous pouvez vous rendre aux objets trouvés de la Sorbonne mère et repartir avec une doudoune Uniqlo oubliée dans l'amphicochi. Ce n'est pas très légal, non, mais ça tient chaud. Et comme on dit dans le milieu, faites ça bien, ménagez vos Sherpa quand vous changez d'amphithéâtre et surtout n'oubliez pas Esprit Kaizen.
Merci beaucoup pour cette super chronique débrouille. Maintenant, on sait où aller choper des super vêtements. Et maintenant, qui dit froid, dit fête, qui dit fête, dit parents. Et on a tout de suite la carte postale de Clara.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Et oui, pas plus tard que ce week-end, nous y étions dans ce sud. Une expédition au centre océanographique de Villefranche, condensée en 2 heures d'émission. Déjà nostalgique, heureusement que Clara nous embarque dans une carte postale parfumée de l'air salin et des rayons du soleil.
Hello cours d'honneur. Alors voilà, on se retrouve pour une petite carte postale chez mes parents à Castelnau-le-Lez, juste à côté de Montpellier, là où j'ai grandi pendant 12 ans. C'est parti. Donc là, je me trouve en face du mur, je dirais une espèce de corail clair de ma maison. C'est le grand moment de rentrer. Je vais voir s'il y a du courrier dans la boîte aux lettres. Ça, c'est vraiment mon petit kiff. Ah, il y a du monde. Cheminée. Je pense que mes parents ont dû faire un feu de bois hier. Oh my god, c'est grand. Ma cuisine. Je vais pouvoir faire plein de super recettes. Oh, la vaisselle. Le salon. Là, il y a la cheminée. Là,
on a déjà, moi, il a bugué. Après, il a retrouvé. Donc, on passe au bon format.
Musicale, hop, je vais dans le jardin. Oh, il fait trop beau, j'adore. On a du persil, du romarin, petite lavande, ensuite petit bac potager. Oh, il y a encore une petite tomate. Il y a un soleil, si vous pouviez voir ça. Je peux pas capter le bruit du soleil, mais juste de la nature qui se agaillardit au soleil. Oui, ça je peux. Dernière petite pépite de la maison. Ah, ouh, je sais pas combien aller. La piscine. Je sais pas combien aller. 12. Ça sent moi les amis.
Incroyable.
Là, on rentre dans ma chambre. Et là, je monte dans mon lit. Mon lit à mezzanine. J'adore. J'ai trop l'impression d'être protégée dans ma tour. Donc là, je vais faire une petite... Voilà les Parisiens, j'espère que cette petite carte postale vous aura plu et qu'elle vous aura réchauffé le cœur avec le soleil du sud. Bisous, ciao!
Merci Clara pour cette petite escapade, ça me donne envie de rentrer chez ma mère aussi. Mais malheureusement, nous devons prendre la fuite, non pas du studio rassurez-vous, mais plutôt vers notre prochain artiste, Aurel San. Issu de son album La Fuite en avant, on s'écoute Soleil Levant sur Cours d'honneur.
T'inquiète, on s'en tient au plan.
Je sais pas pourquoi tu nous parles de God, t'es même pas le maire de ta ville de merde. Tu peux vite croire que t'es très chaud quand tu t'entraînes qu'avec tes brels. Normalement je fais pas la compète, mais va bien falloir qu'ils comprennent. Multiplie tes ventes par 3, t'as la moitié de ma première semaine. Avant j'avais rien à perdre, je suis plus fort depuis que c'est le contraire. Avant j'aimais pas l'amour, avant j'avais jamais dire je t'aime. Je cours pour esquiver mes problèmes, mais je tourne en rond donc ils reviennent. La vie c'est dur de base, t'es sur terre parce que quelqu'un a niqué ta mère. Tous les jours je refuse d'échec, une fois sur 200 j'en accepte. J'ai pas dit que je suis un putain de rebelle, j'ai dit que j'écris des putains de textes. Musique trop fort dans la caisse, je sais pas c'est peut-être une Mercedes. L'époque de date pif les mixtapes, les soirées je dormais sur la banquette. Combien de fois tu vas dire que je suis dead? 1, 2, 3, 4, ça part en pogo, je suis sur scène. 1, 2, 3, 4, maintenant je sais reconnaître le trait. Et dit que tous les autres c'est des traites, des vipères, des couleuvres, des pitons, des boas, des cobras, des mambas, bienvenue dans le game. Désolé t'es pas gang gang, Andromède quand je me déchaîne. O-R-E-L-S-D-M, je rentre dans ma période des BZ. Ils ont tous le nez dans la planche, c'est enneigé faut mettre des chaînes. Personne n'a peur de ce qu'il attend, jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.
J'allume la lumière avec un Glock. J'commence mon couplet avec un gras. J'démarre ma carrière d'artiste avec un pote. J'commence à l'arrière, j'finis devant. J'te file des lits, j'te fais 10 balles le vin. J'pousse cette merde et le soleil le vent. Et j'quitterai ce monde avec un verre de vin. Ouais, faute sur moi, j'te laisse guetter la var. J'vise vers toi, j'te laisse guetter la mort. J'ai les mains dans la merde et sur un disque d'or. Tu veux de l'oseille, moi j'peux te faire taffer. Cite mon blason, fais ta fête. Qui t'a fait croire que t'y arrives sans taffer. J'commence couplet quand t'attendais le refrain, yo. Là où c'est propre, nous on vient faire du sale. Chez moi on graille à même le sol. Me fais les pecs en ramenant mon pompe à la salle. C'est pas ton pote, ça a ça. Il veut se faire ta reçue, il veut se faire ta violette, ta recette. J'ai peut-être un petit pète au casque, au lieu d'ouvrir on casse. Mais plus fort le son dans la caisse. Chaud, chaud, chaud. Quand j'suis dans celle-là, j'suis trop, trop chaud. Tu connais l'ami, tu touches ta chef. Pour pas qu'il revienne, tu tires ta chef. Change de chaîne, mais tu verras toujours ma gueule. Si bague au doigt, j'suis comme Michael. J'avance en arrière, j'suis comme Michael.
On veut devenir artiste, influenceur ou sportif. Je peux pas les blâmer, j'ai fait pareil et je m'en suis sorti. Je croyais que j'avais gravé des fraises, j'étais sur une colline. Rien à prouver, j'enlève les étiquettes sur le stony. Trop de tout est toxique, trop de bonnes choses aussi. Y'a une fine ligne entre être un bouffon et un comique. Ils veulent que j'explose la dalle de béton à la John Wick. J'essaie d'être heureux pour qu'ils me lâchent parce que je suis égoïste.
Et il est 18h17 sur Radio Campus et Radio Sorbonne. Oui, on a vraiment abandonné le fait de calculer. Vous êtes sur Cours d'honneur, vous venez d'écouter Soleil Levant, le feat entre Orelsan et SDM, issu du nouvel album d'Orelsan, La Fuite en Avant. C'est sorti le 7 novembre, on s'en délecte. Et on supplie tous en cœur à SDM d'écrire plus de rap comme ça. Merci. En parlant de soleil, on parle de mer et de plongée. Je vais vous en faire découvrir un personnage emblématique tout de suite avec la chronique Sorbonne en personne.
Ce week-end, on était à Villefranche pour une émission spéciale sur le laboratoire océanographique. Rappelez-vous, fidèles auditeurs, Thomas s'est délecté d'une chronique Sorbonne en personne sur Alexis de Corodneff, le fondateur. Swan s'occupe aujourd'hui de vous raconter l'histoire de Milne Edwards, le scientifique Palamphi.
Quoi qu'on en puisse en faire une carte postale, évidemment, que je ne vais pas vous en raconter l'histoire de l'amphi Milne Edwards en haut de l'escalier B, dont je monte les trois étages chaque lundi à 10h pour un CM de littérature anglaise. Yeah. On suppose donc que Monsieur Edwards était un anglais? Eh bien oui, enfin son père, bon j'y reviendrai. En attendant, c'est qui ce mec? Vous en avez entendu parler durant notre émission spéciale Love, on n'a pas arrêté d'en discuter pendant nos verres d'après-montage, mais c'est qui?
Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là?
Est-ce un scientifique qui a révolutionné les sciences, un médecin qui a révolutionné la médecine, un zoologiste qui a révolutionné la zoologie, un entomologiste qui a révolutionné l'entomologie? Waouh, trop de questions. Alors au 19e siècle, notre petit Henri, c'était donc le précurseur de Cousteau, version anglo-belge reconverti à la France.
Oh bah, t'es sûrement pas français.
Reconverti, oui, puisqu'il a abandonné la belle ville de Bruges, aka le Venise de la Belgique, pour la citoyenneté française. Pas très smart, remarque, il a été élevé par ses frères et sœurs après que son père soit fait enfermer par les troupes de Napoléon. Bon, thank God, il a été libéré, vous inquiétez pas. Henri a pu faire des études de médecine à la Sorbonne jusqu'au doctorat, et comme il n'était pas assez occupé, il s'est marié la même année avec Laura Trezel. Ils sont bleus l'un de l'autre, comme disent les Belges. Ils ont carrément fait 9 enfants. On n'en demandait pas trop, Henri, mais c'est ok. Et puis, il y en a 5 qui meurent, donc ça a perte votre histoire là. On parlait ce week-end de la vulgarisation de la science. Et ben, c'est ce qu'il va devoir faire pour subvenir aux besoins de sa famille. D'abord riche, en fait pauvre, il se verra dans l'obligation d'être médecin, d'écrire des ouvrages pour novices et même prof au lycée. Quelle horreur. Mais lui, ce qu'il aime, c'est la biologie. En 1826, il entame la grande exploration des côtes françaises avec son meilleur pote, Jean-Victor Audin. Et...
Si vous n'aimez pas la mer... Allez vous faire foutre!
Leurs recherches se sont poursuivies jusqu'en 1830, puis ils se séparent, car si Henri veut se concentrer sur les animaux marins, JV préfère plutôt les insectes. En parallèle, il devient prof à l'école centrale des arts et manufactures. J'espère qu'il n'était pas juste titulaire, parce que t'es mal l'éducation nationale de l'époque. Bref, il entre à l'Académie des sciences en 1838 pour encore enseigner, mais aussi être doyen, histoire de s'amuser un peu quoi. Il restera doyen dans la faculté des sciences de Paris toute sa vie d'ailleurs, et 3 ans après, enfin, il est nommé à la chaire d'entomologie au Muséum d'histoire naturelle, qui consiste aux recherches sur les insectes. Alors il prend la place de son pote Jean-Victor, qui vient de mourir, donc on espère que c'est pas lié. Hashtag manigance ou quoi là?
Frappe-moi, je t'empoisonne.
On suppose qu'il est quand même en deuil, puisqu'il se morfond dans ses recherches sur les invertébrés. Il enchaîne les excursions et les études d'animaux vivants. Bon, on crie à l'extermination, à l'expérimentation animale, attention, lapsus. Mais à l'époque, c'était pas encore ban. Surtout qu'il va tout révolutionner en les observant vivants, au sein de la mer et dans les conditions même de leur existence. Grâce à lui, les recherches ne sont pas sur les animaux morts conservés dans les collections, mais on s'attaque aux peu qui restent. Bah, merci Henri, génial. En fait, ils sont en voie de disparition à cause de toi, man. Bref, Prumdeck, grâce à lui, on en connaît bien plus sur leur anatomie et leur physiologie et l'étude des animaux marins. On est bouleversé d'ailleurs. Par contre, on sait toujours pas si le Loch Ness existe, mais bon. Henri Milne Edwards accumule les académies et les mentions. Je ne vous liste pas toutes celles dont il est membre, mais je préviens qu'il ne se freine pas à une catégorie européenne. Il fait pas le tour du monde en bateau, mais ses découvertes se propagent clairement dans l'entièreté du globe. Il y a de quoi faire son nez, comme disent les Belges. Ses études lui permettent de découvrir que la faune marine se modifie à mesure qu'on explore des parties plus ou moins profondes de la mer. Plot twist, fallait vraiment être président de l'Académie des sciences pour ça, en fait.
Très bien, moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok ?
Bon, mais le pauvre Henri rencontre un obstacle. En effet, les moyens dont il dispose à l'époque viennent à manquer. Genre, ils ont même pas de bouteille d'oxygène à l'époque, mais il y a des scaphandres à chaque vintage. Sauf que Henri n'a pas la clope, comme disent les Belges. Il va descendre assez profondément dans la mer pour pouvoir observer un monde animal qui n'a encore jamais été contemplé. On dirait de la poésie, n'est-ce pas? Eh bien, il a dû en prendre plein les yeux, c'est sûr. Peut-être même qu'il était autant impressionné qu'Élie et moi devant l'ordi du plongeur Cyril Debosse au Love et ses photos de poissons perroquets. On se demande alors comment il mettait son casque. Que dis-je? Sa boîte? Que dis-je? Sa caisse?
C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule.
Eh bien, il enfermait sa tête dans le scaphandrier, une sorte de casque avec des clapets, il enfilait de lourdes semelles de plomb et se laissait couler, voilà. Et ses amis sur le bateau lui envoyaient de l'air nécessaire grâce à une pompe, voilà, pas si compliqué en fait. Bon, il aurait pu mourir mais c'est ok. Les Milne Edwards et la biologie, c'est une histoire de famille. Le même courage sera retrouvé chez son unique fils Alphonse, qui poursuivra sa quête dans la zoologie en explorant dans les fonds marins à sa suite. Henri s'éteindra tranquillement en 1885 dans son logement de fonction au Jardin des Plantes, dont son fils sera d'ailleurs plus tard directeur. L'amphithéâtre sera nommé en hommage aux deux hommes en 1898.
Merci Swan pour cette petite chronique en personne. Grâce à toi, maintenant, je connais un autre personnage qui s'appelle Edward, mais c'est pas Edward Cullen cette fois-ci.
Ah non, bébé,
c'est
non.
C'est un scientifique, c'est un peu plus concret.
Remarque, il était scientifique, lui. Grau. Allez, là-dessus, c'est la fin du 7e épisode de la saison.
Cours d'honneur, épisode 7, saison 5, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi.
Merci surtout à notre invitée Oana Besnea qui a été interviewée par Lavinia.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Merci surtout à toute l'équipe. Merci Mathilde.
Il n'y a pas de souci, on revient la semaine prochaine.
Absolument. Merci aussi à Elias le fameux qui est derrière les platines.
Merci à tous, merci beaucoup.
Merci à Lavinia aussi.
Merci à Moulifi, vous avez super bien géré. Merci à Oana Besnea qui n'est plus là. Merci à Thomas qui n'est aussi plus là, mais et qui est parti vraiment ravi.
Il avait l'air. Merci aussi à Romain qui est avec nous ce soir.
Merci à vous, tout le plaisir était pour moi.
Merci à Clara pour cette petite escapade ASMR-tique dans le sud.
Ah non, mais je vais être fichée ASMR maintenant quand je vais faire des enregistrements.
C'est génial, je vais m'endormir avec ça.
Avec plaisir, merci à vous tous et toutes, franchement, animatrices, boss lady, les bons plans Noël, l'interview, enfin, j'ai adoré. Voilà.
Merci à Thomas qui est redevenu muet.
Ouais, bah, il est carrément pas là, donc comme ça. On remercie et merci surtout à Marion, attendez, qui s'est occupée de la réalisation après lui.
De rien, ça fait grand plaisir.
Non, on n'a pas du tout été forcé pour la remercier. On remercie également Radio Campus Paris pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat.
D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines.
Une dernière fois avant 2026, le temps que Ellie aille s'acheter son sèche-cheveux.
Mais surtout d'ici là, évitez de boire trop de vin chaud au marché de Noël. Pardon.
Ou de vous blesser en essayant cette figure à la patinoire. Non, tu n'es pas le prodige de la glace que tu penses être.
Et c'est ok. Soyez vous-même.
Soyez vous-même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime. Bisous, ciao.
Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.